Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui, c'est Sébastien Rocheron qui est à la technique de notre émission. Et à la une, on peut dire un illustre inconnu, même si, comme le disait tout à l'heure Vincent Parisot, quand on en parlait avant le flash, d'un personnage qui est aussi peu connu que peu recommandable. C'est en tout cas une page, on va dire, qui nous emmène dans les coulisses de l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est certainement l'affaire judiciaire et fiscale la plus importante de la Deuxième Guerre mondiale, avec des prolongements encore aujourd'hui. On va parler de tout cela et du personnage principal, donc dont je donnais le nom tout à l'heure, Mendel Skolnikov. On en parle avec Pierre Abramovici. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien, comme on dit, TF1 du journalisme d'investigation, même si aujourd'hui vous avez plutôt mis la casquette d'historien. Et est-ce que, alors, vous êtes l'auteur, et ceux qui nous écoutent vont découvrir la vie absolument incroyable de celui qui a été, certainement, pour reprendre le titre de votre livre qui paraît aux éditions du Nouveau Monde, le plus gros trafiquant de l'occupation. Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à ce personnage?
Il y a une raison bête, en fait. C'est que je suis né à Monaco, imaginez-vous, et que cet homme a créé des holdings à Monaco pendant la guerre, et donc je suis tombé dessus un peu par hasard à l'origine.
Ouais.
Et je dois beaucoup à Jacques Delarue, qui est un ancien historien, autrefois policier, et qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « Trafic et crimes sous l'occupation », ouais, en 68. Et c'est lui qui évoque le premier, la figure de Skolnikov, ouais, et très très brièvement. Et quand j'écris, il y a quelques années cela déjà, un livre sur Monaco pendant la Seconde Guerre mondiale, Delarue très gentiment me donne quelques documents, à peu près une centaine de pages. Mmh. Et en fait, pour les besoins de ce livre, j'en ai trouvé 2 millions.
D'accord. Et c'est vrai aussi que c'est une vie qui ressemble à un roman noir, puisqu'il a fini, comme je le disais tout à l'heure, dans le coffre d'une voiture des services secrets français qui sont allés qui voulaient le capturer en Espagne en 1945. Mais même là, il y a encore un point d'interrogation, parce qu'on se demande s'il est vraiment mort ou pas. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. On parlera de tout ce qu'il a fait dans cette vie très agitée avant de débarquer en France, dans le quartier du Sentier, dans les années 30, mais je voudrais qu'on commence, pour prendre la mesure du personnage, par la scène que vous décrivez au début de votre livre. Ça se passe dans un bureau de la PJ parisienne. Un inspecteur interroge quelqu'un qui a participé au comptage, c'est ça, de ce qu'on appelait le séquestre des collabos?
Non, pas exactement. Lui, il a participé au comptage de l'argent allemand, mais sous forme d'or. C'est-à-dire que les Allemands, en fait, il faut avoir en tête un truc important. Les Allemands aiment beaucoup les liquidités et l'or, et ils en ont plein. Et pour la circonstance, la police à la Libération ignore évidemment totalement, au tout début, quelle est la hauteur de cette histoire. Donc, ils interrogent un certain nombre de types, et notamment un gars qui est un complice de Skolnikov, qui est banquier. Ouais. Son métier, c'est banquier. Et puis, il devient, après, en quelque sorte, son départ de sa banque, associé, si j'ose dire. Et il raconte une scène absolument inouïe. Un beau matin, on lui dit, voilà, faut venir. Viens chez nous, on a de l'or à compter. Donc il débarque et l'or à compter, enfin mettez-vous à la place de n'importe quel inspecteur de police, ça veut dire, je sais pas, 2 lingots, 3 pièces, pas du tout. Il passe une journée qui démarre genre le matin, il termine dans la nuit avec plusieurs complices, et ils emballent des rouleaux de 25 pièces d'or par rouleau. Donc il y a des dizaines et des centaines de rouleaux et des lingots, et aucune estimation évidemment n'est possible, mais ça représente des centaines de millions dans la journée.
Oui, c'est ça, parce que tu me dis à un moment, je vais même arrêter de compter, quoi.
Voilà, ils savent même plus. Et en fait, le flic réalise tout d'un coup que mais on est en train de parler de sommes inouïes. Et là, la police monte 2 enquêtes parallèles. Une enquête des services de renseignement, d'un côté, c'est où est l'argent. Et de l'autre côté, une enquête de type judiciaire classique, c'est comment faire payer les complices et les coupables. Ouais. Et c'est là que toute l'affaire démarre, en fait.
Alors, ce personnage, il est russe d'origine. Il a eu quand même un long périple avant d'arriver en France.
Alors, c'est compliqué. C'est-à-dire que on ne sait pas très bien ce qui est vrai et ce qui est faux dans cette histoire, comme toujours chez ce genre de type.
Ouais.
Techniquement, il est russe et apatride, puisque après la révolution bolchevique, il perd sa nationalité. Donc ça, c'est clair. Certains le disent, si j'ose dire, fournisseur de l'armée impériale. Mais c'est joliment dit pour quelqu'un qui, à la limite, fournit du tissu pour des uniformes. Bon, on ne sait pas très bien. Ouais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est plus ou moins dans le textile, à peu près. À ceci près qu'il est issu d'une famille peut-être pas si modeste que ça, on n'est pas sûr. Ouais. Peut-être qu'il y a des banquiers dans la famille, mais c'est pas sûr non plus. Et puis vous avez 2 chemins qui partent, selon certains rapports de police, ils partent vers l'est. Il se retrouve d'abord en Pologne, puis à Danzig, et là, il serait directeur de banque. C'est dire que c'est un gros poisson.
Mmh.
Puis de l'autre côté, c'est l'inverse. Il part vers l'ouest, il descend vers la Belgique, puis vers la France. Et là, au contraire, c'est un petit escroc sans le sou, ouais, qui est condamné à plusieurs reprises en Belgique, ça c'est vrai. Il y a de nombreuses reprises en France, ouais, c'est vrai aussi. Alors, le vrai du faux, je sais pas.
Ouais. Et alors, quand il arrive, il va s'installer aussi dans le sentier
c'est normal.
À Paris. Hein.
Tout à fait. Il a les caractéristiques, c'est un type qui fait dans le textile.
Voilà.
Il est juif, il est apatride, c'est le lieu, c'est tout à fait logique.
Alors, c'est important hein, de rappeler que, en fait, le textile occupe une place très importante dans ses occupations et dans son savoir-faire, en fait. Hein.
C'est déterminant. Vous avez un certain nombre d'escrocs, de trafiquants, etc., pendant toute la guerre, qui travaillent sur différents secteurs. Lui, donc, c'est l'homme du textile. Il n'est pas tout seul. Et ça représente des sommes considérables et des marchandises en nombre énorme, parce que les Allemands ont besoin de textiles, beaucoup.
Ouais. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que dès l'occupation allemande, dans un premier temps au nord de la Loire, l'armée, la Kriegsmarine, donc c'est la marine de guerre allemande, la Wehrmacht, puis les SS. Alors, ils ont besoin d'avoir des collaborateurs, mais là au sens de collaborateurs pour travailler, qui font quoi? Alors, il y a des bureaux d'achat à Paris?
Alors, il faut expliquer un point, c'est un peu technique, mais c'est important. La France vient de perdre la guerre. Comme elle a perdu la guerre, elle doit payer une amende.
Elle paye. C'est énorme, hein, d'ailleurs.
Bah, c'est une amende de, à l'époque, en francs. Alors, on va parler en francs.
400 millions.
C'est 400 millions de francs par jour.
Par jour. Ouais.
Ça représenterait, si on parlait en euros, je sais pas, 20 ou 30 millions d'euros par jour, mais à euros francs constants. En vérité, en pouvoir d'achat, c'est colossal.
C'est énorme, Et la France doit payer ça à l'Allemagne.
Elle doit payer ça chaque jour.
Chaque jour.
Or, l'Allemagne, évidemment, ne reçoit pas des valises de billets. En réalité, ça se passe à la Banque de France, c'est des jeux d'écriture.
D'accord.
Donc, les Allemands nomment, dès l'occupation, un gouverneur de la Banque de France, qui par un hasard intéressant pour nous, a été le gouverneur de la banque de Danzig, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qu'il connaissait déjà.
Ouais.
Donc ce type s'installe, et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il donne de l'argent à ses intermédiaires pour procéder à des achats.
Ouais.
On crée des bureaux d'achat. Ces bureaux d'achat sont là pour ramasser tout ce qui n'est pas sur le marché. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sur le marché, et pour acheter, en réalité, au meilleur prix. Parce que contrairement à ce qu'on croit,
quoi et pour qui,
de tout. On achète de tout pour tout le monde. On achète du vin, on achète de l'essence, on achète des voitures, on achète tout ce que vous voulez. Tout ce dont les Allemands ont besoin et qu'ils ne pillent pas. Parce que ce qui est important, c'est que cet argent qui est le nôtre, je veux dire par là que c'est l'argent de la Banque de France, ils s'en servent et ils distribuent cet argent. Ça veut dire que vous avez, par exemple, une tonne de textile, vous devriez la payer, disons, 10 francs de l'époque la tonne, et ben ils vont vous la payer 100 francs.
Voilà.
Quelle importance.
Et le reste va dans la poche de l'intermédiaire.
Voilà. Ça n'a aucune importance, l'argent n'est pas à eux.
Ils s'en fichent.
En fait, le vol se passe à un autre niveau.
Ouais.
Donc, ils pillent la France par le biais financier, et donc ces intermédiaires ne se trimballent pas du tout avec des valises de billets non plus.
Ouais.
Ils se trimballent avec ce qu'on appelle des bons porteurs, distribués par la Banque de France, et ça varie de l'ordre de 50, 60, 100 millions par jour.
Et c'est comme ça que Skolnikov, et on va reparler de lui dans un instant après une pause, va faire une fortune, mais colossale, hein, c'est multimillionnaire en quelques mois, et il va finir par posséder, je sais pas, la moitié du 16e arrondissement, enfin, vous allez nous dire tout ça, puis après aller acheter des palaces sur la Côte d'Azur.
L'heure du crime sur RTL.
Qui était vraiment ce Skolnikov dont nous parlons, dont le nom quasiment inconnu du grand public et qui pourtant fut le plus grand collaborateur de la Deuxième Guerre mondiale? On en parle avec Pierre Abramovici qui a consacré un livre enquête vraiment en fouillant dans les moindres recoins la vie de cet homme pour essayer de comprendre d'abord comment il avait accumulé cette fortune qu'on a du mal à se représenter, hein, il faut bien le dire. Et puis aussi de savoir pour qui travailler vraiment. Est-ce que alors on dit toujours pour qui était vraiment un tel, on le dit toujours quand il y a des légendes. Hein. On nous demande par exemple si il est d'origine juive. C'est important pour l'histoire que vous racontez dans votre livre.
Ah, c'est tout à fait essentiel. Skolnikov techniquement est juif, d'accord. Mais pour les Allemands, il ne l'est pas. Ce qui est tout à fait surprenant. Alors la raison, c'est qu'il vient d'une région de Russie, de l'Empire russe, où une sorte de secte, si j'ose dire, religieuse, juive, dans la fin du 18e, 19e siècle, en fait, progressivement se transforme en quelque sorte en haute société du coin.
Ouais.
Et donc, ils obtiennent de plus en plus d'avantages, donc au début du 19e siècle, au point que, à la fin du 19e, ils se considèrent eux-mêmes comme non-juifs, bien que comme tel considéré par les autres comme juif. Mmh. Et en fait, en 1934, absolument saisissant, les Allemands décident que ce groupe qu'on appelle des Karaïtes ne sont pas juifs. Ce qui fait que Skolnikov va avoir un vrai problème dans la vie pendant la Seconde Guerre, c'est que les Français qui n'ont jamais entendu parler de ça le considèrent comme juif et l'arrêtent et le persécutent. Et il est ça à chaque fois sorti de prison par les Allemands qu'ils considèrent comme non-juifs.
Comme non-juifs, voilà. Donc ça, c'est un des paradoxes de l'histoire de cet homme-là. Alors, on dit souvent dans les affaires criminelles chercher la femme. Il faut dire quand même qu'avant l'arrivée des Allemands en France, il était déjà dans le négoce avec les certains grands magasins parisiens. Hein. Il n'est pas sorti comme ça de rien, là.
Non, il existe, mais il existe petitement. C'est-à-dire que c'est un petit fournisseur des grandes surfaces de l'époque.
Ouais.
On peut comparer. On dit par exemple que son compte en banque est aux alentours de 5000 francs au début de l'année 40.
Ouais.
Et il passe à plusieurs millions à la fin de l'année 40. C'est-à-dire qu'il change de
nature. Alors, entre-temps, il a rencontré une femme.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut revenir à sa situation maritale. Il est marié.
Ouais.
Il a une femme qui est là depuis longtemps. Mmh. Il n'a pas d'enfant. Mmh. Il a une famille. Et c'est un excellent mari et un bon père, si j'ose dire, pater familias de la famille.
Ouais.
Donc, il va les entretenir constamment jusqu'à la fin de la guerre, y compris sa femme avec qui il ne vit plus, y compris l'amant de sa femme avec qui elle vit.
D'accord.
Mais effectivement,
il a rencontré une maîtresse. Hein.
Mais il rencontre une maîtresse qui, en quelque sorte, change sa vie, tout en ayant la maîtresse, en entretenant la maîtresse et en même temps en entretenant le reste de la famille.
Ouais.
Donc, Skolnikov rencontre une femme qui s'appelle Hélène Sanson. Cette femme est mariée à un Allemand qui s'appelle Sanson, qui est juif, qui par la suite aura apparemment un sort tragique.
Oui, qui sera déporté. Hein,
tout à fait. Oui. Et donc cette femme, qui est allemande, il se trouve qu'à cause de son mari, puis du fait qu'ils étaient allemands, ils sont internés dans la période de la drôle de guerre. Donc, elle revient à Paris, elle dit « mon appartement est saisi », elle s'adresse aux autorités allemandes, elle dit « mais je suis prêt à travailler pour vous, puisque je suis allemande ». Puis elle n'est pas juive, donc tout va bien.
Ouais.
Donc les Allemands la font venir dans un bureau d'achat textile de la Kriegsmarine, qui sont les premiers acheteurs à ce moment-là de produits textiles. Alors, ils en ont besoin, notamment, vous savez, pour les toiles plastifiées, ce genre de trucs.
Oui.
Très bien. Et on lui dit, il y a un gars sur le marché qui a l'air pas mal, qui connaît bien ces choses-là. Allez le voir, faites-en un acheteur pour nous.
Et c'est comme ça qu'elle rencontre Skolnikov.
C'est le coup de foudre, c'est un truc fabuleux.
Ouais.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la légende, il en faut une. La légende, c'est Audouard qui l'a raconté. Audouard, il fait un portrait de Johannovici, le grand escroc d'après-guerre qu'on raconte pendant la guerre. Ça. Et là-dedans, il fait un petit portrait de Skolnikov. Il le décrit comme beau, blond, arien, aux yeux bleus, grand, magnifique, enfin... formidable, sauf que c'est absolument pas vrai. C'est un petit bonhomme, pas terrible, assez vilain, très banal, avec des yeux tout à fait marrons.
Ouais.
Et il rencontre cette femme de 40 ans, qui est plutôt grosse, pas très jolie. Et donc ce couple se retrouve. Et c'est pas du tout le légendaire bel allemand qui séduit la belle allemande, c'est au contraire un couple tout à fait banal, qui a une vie banale, c'est important. Ouais. Ils vont devenir richissimes, ils ont une vie, nonobstant les lieux où ils habitent, c'est plutôt banale.
Ouais, c'est pas un Stavisky, pour reprendre des exemples proches à cette époque-là. Alors, évidemment, avec ce négoce principalement basé sur le textile, avec des clients évidemment importants, la Kriegsmarine, après il va y avoir la Wehrmacht, il va y avoir aussi la SS, on va en parler, mais là, je voudrais juste qu'on fasse une précision, parce que, on l'a dit, personnage qui donc va être un agent des Allemands pendant toute la guerre, qui va faire fortune, qui va être payé avec l'argent des pillages allemands, pillages souvent qui sont les biens juifs, ou l'argent que volent vraiment les Allemands, on se dit, c'est difficile de penser quelque part qu'il peut être, sinon sympathique, tout au moins, que ce soit pas un salaud jusqu'au bout. Parce que, à la même époque, il y a la rue Lauriston, il y a ce fameux couple Bonny-Lafont, qui, eux, travaillent pour les mêmes bureaux d'achat de l'armée allemande, et qui rançonnent, qui pillent, qui tuent, qui violent, et qui torturent. C'est pas son cas.
Non, parce que je pense qu'il y a une différence de fond. Ceux-là sont des voleurs, et donc ils volent. Et ils ont autour d'eux des gangsters, alors que lui est un homme d'affaires qui se contente de prendre de l'argent, de distribuer l'argent et de prendre sa commission entre deux. Il n'a nul besoin de torturer personne. Au contraire, il vient pas voler, puisque grâce à cet argent déjà volé, qu'est-ce qu'il fait? Il vient payer.
Et il le fait fructifier, évidemment.
Tout à fait.
Et c'est comme ça, donc, mais ça on va en parler dans un instant, qu'il va devenir un des plus gros propriétaires immobiliers, à la fois de Paris et de la Côte d'Azur. Et la Côte d'Azur, c'est très important, parce qu'on découvre, ceux qui vont lire votre livre, vont découvrir... que à l'époque, Monaco, la principauté de Monaco, est une des principales plaques tournantes de ce qu'on appelle du blanchiment de l'argent, des pillages allemands. Et Skolnikov est souvent à Monaco.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et l'invité de l'heure du crime, Pierre Abramovici, pour son livre Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'opération, de l'occupation, et qui est un personnage que vous allez découvrir, que vous avez commencé à découvrir avec nous depuis tout à l'heure. On va redire une chose, parce que il y a un moment, un tel niveau de richesse que les chiffres veulent plus rien dire, mais vous avez fait le calcul, il gagnait 1 à 2 millions. C'est pas la même chose. C'est 100% de plus. 2 millions par mois en 1942, quoi.
Il faut comparer ce qui est comparable à l'époque. Le salaire d'un directeur de banque à l'époque est de 30 000 francs par an.
Voilà.
Et il gagne 1 million par mois.
Voilà.
On est dans un autre registre.
Un voire deux. Et alors, ça, c'est aussi parce que c'est Madame Sanson, là, qui est sa maîtresse, lui a ouvert aussi les portes de la SS à partir de 1942. Et là, ça booste encore plus ses activités, quoi.
Alors, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas très bien. Pour être tout à fait franc, on n'est pas absolument sûr qu'il y a gagné plus d'argent avec les SS qu'avec les autres. C'est pas sûr à 100%. Ouais. Apparemment, il gagne déjà beaucoup d'argent tout de suite.
Oui,
la Kriegsmarine lui rapporte des sommes colossales.
Ouais.
La SS apparemment continue. Donc notre homme d'affaires, pour rebondir sur la chanson de Benabar d'ailleurs, Paris by Night, c'est pas son truc.
Ouais.
À l'époque, Paris by Night, c'est les Allemands. Ce sont eux qui sont là, et les collabos. Et en fait, on s'aperçoit que ce type qui a donc des sommes énormes à sa disposition, qui vit sur un pied énorme à son domicile, il a un appartement gigantesque à côté des Champs-Élysées.
Oui, quand même. Et puis il a une villa,
tout à fait, il a des moyens, des budgets, etc., mais il sort peu.
Mm-hmm. Et il reçoit beaucoup.
Il reçoit. Mais on le voit pas du tout dans ces fameux endroits où on voit les fameux Bonnie Lafont et tous les autres, en smoking. On le voit pas du tout sur ce genre de truc. Ouais. C'est un homme simple, vous savez.
Oui, c'est un homme simple. Et alors, il est doué pour le calcul, parce que il va racheter d'ailleurs une société immobilière pour une somme considérable, plus de 100 et quelques millions de francs de l'époque. Alors, il va être propriétaire de presque tous les immeubles qui sont à partir du dernier tiers des Champs-Élysées avant l'Étoile.
C'est très simple. Vous prenez un plan, c'est facile.
Vous prenez
l'Alma Marceau.
Ouais.
D'Alma Marceau jusqu'aux Champs-Élysées.
Ouais.
Vous remontez jusqu'au coin de l'avenue Georges V. Vous descendez, c'est entièrement à lui. Il n'y a pas un truc qui soit pas à lui. Ouais. Le Plaza Athénée, l'immeuble est à lui. Tout est à lui.
Voilà. Alors justement,
ça, c'est beaucoup d'argent.
Vous venez de dire Plaza Athénée. Il va aussi acheter beaucoup de palaces. À la fois des palaces sur la Côte d'Azur, on y vient dans un instant, mais des palaces à Paris, le Louvre. Le Louvre et le Windsor, c'est à Monaco.
C'est à Monaco.
Oui, c'est à Monaco.
Il faut comprendre comment ça fonctionne. Oui. Skolnikov, d'abord, est un anonyme, c'est-à-dire que pour fonctionner, il utilise de manière très très moderne des paradis fiscaux, en l'occurrence la principauté de Monaco, qui n'existe pas en tant que paradis fiscal, mais peu importe.
Oui.
Il crée ce qu'on appelle des holdings, donc il se cache derrière la société X.
Oui.
Il en crée comme ça 8.
Oui.
Et ces 8 sociétés, ce sont elles qui procèdent aux achats. Donc, il n'apparaît pas
en tant que tel.
Et donc, cette société X, l'une des 8, achète, et bien elle achète par exemple donc les pâtés de maison dont on vient de parler, mais elle achète aussi, par exemple, le Martinez, dont on va reparler.
Oui, le Carlton à Paris.
Elle achète alors un hôtel qui n'est plus un hôtel aujourd'hui, mais qui est un pâté de maison, qui s'appelle l'Hôtel de Paris, qui est entre la Madeleine et l'Opéra, qui est un énorme pâté de maison. Il achète à peu près une douzaine ou une quinzaine d'hôtels de grand luxe. Ce ne sont que des hôtels de luxe.
Oui.
C'est le plus grand propriétaire d'hôtels de luxe de France.
Oui.
Et de Monaco, parce que dans la foulée, elle achète la moitié de la principauté de Monaco.
Voilà, donc le Louvre, le Windsor à Monaco, le Plaza, le Roulet à Nice, le Majestic et le Martinez à Cannes. Et ça, c'est important, parce
alors,
que d'ailleurs,
il y a une
photo de l'hôtel Martinez sur la couverture de votre livre.
Tout à fait, mais c'est tout le problème.
Oui.
Il n'achète pas le Martinez.
Oui, mais il achète des...
Il achète des actions, un monsieur qui est... Alors, on en reparlera, mais en substance, il est propriétaire, entre guillemets, de la société hôtelière pendant 3 mois.
Voilà, d'accord.
Et toute la clé de la suite de l'histoire vient de ces 3 mois. Mais nonobstant, et avant d'en arriver là, il est donc propriétaire, si on calcule bien, de quelque chose qui est sans aucune espèce de valeur estimable.
Ouais.
C'est au-delà de l'estimable. C'est gigantesque à un point inouï. Alors les autorités françaises l'ont estimé à l'époque à 2 milliards de francs.
Ouais.
De l'époque, rappelez-vous, les 30 000 francs du directeur d'entreprise, enfin du directeur de banque, c'est donc gigantesque.
Mm-hmm.
Et en fait, j'ai continué mes recherches, puisque je cherche à savoir s'il est toujours vivant, et je me suis rendu compte qu'on pourrait estimer ça plutôt à 8 à 10 milliards, ce qui fait de lui, pratiquement sans aucun doute, l'homme le plus riche de France.
Il peut plus être vivant aujourd'hui.
Maintenant, non.
Mais vous pensez qu'il est peut-être pas mort dans un coffre de voiture en 1945.
Tout à fait.
Alors, il faut dire que à partir de 44, certains ont compris que la guerre allait peut-être mal se terminer pour ceux qui étaient du côté des Allemands. Il fait beaucoup de voyages en Espagne. En fait, il va planquer une partie de sa fortune, non, en Espagne. C'est comme ça qu'on peut analyser.
Bien, je vous remercie de m'avoir posé cette question. C'est une excellente question. J'en sais rien du tout. Personne n'en sait rien.
Bah, les services secrets français vont se le demander aussi.
Personne n'en a la moindre idée. Tout l'intérêt de cette histoire, c'est qu'en fait, il disparaît quelque chose. C'est en creux qu'il faut procéder.
Et pardonnez-moi, il part en Espagne peut-être pour planquer son argent, mais pour prendre peut-être aussi des distances avec ses amis allemands, parce qu'il fait, il est arrêté par la Gestapo, le Gestapo à plusieurs reprises, parce que la Gestapo fait une sorte d'opération main propre.
Il y a un peu de ça, et puis en fait, on le suspecte plus ou moins d'avoir traité en douce sans ses maîtres supérieurs, si je veux dire, avec ses maîtres inférieurs, c'est-à-dire le patron du bureau d'achat de la SS qui apparemment travaille pour lui tout seul. Donc, semble-t-il, ils ont mis de l'argent sous le coude. Enfin, on sait pas très bien. Ce qui est sûr, c'est que, à la libération, la vraie question qui se pose, c'est donc, où est l'argent? Si vous reprenez les choses qui ne voyagent pas, les hôtels, les immeubles, les maisons, tout ça, ça représente donc 2 milliards. Mais il y a le reste. Le reste, on ne sait pas. On sait que Skolnikov achète des bijoux. Mais pour combien? Alors l'estimation est de 800 millions à 1 milliard. On n'est pas sûr. On sait qu'il achète des actions. Mais des actions, dans les estimations, c'est très peu de choses. Quelques centaines de millions. Et en fait, moi, j'ai trouvé récemment des milliards en actions. On ne sait pas. En vérité, on n'en a aucune idée. Ce qu'on sait, c'est que Skolnikov, qui est effectivement menacé par les Allemands, enfin par certains Allemands, il est arrêté à la fin 43, après avoir été arrêté une première fois à l'été 43. Donc début 44, les carottes commençaient à être un peu cuites. Il s'en va, il part en Espagne, il fait plusieurs voyages. Il s'y installe définitivement vers le mois de mai-juin 1944, ce qui est assez raisonnable, le débarquement de on est en plein dedans. Il fait venir Hélène Sanson, il s'installe dans un hôtel de luxe vivant sur un grand pied, apparemment. Et là, c'est assez étrange, Skolnikov fait quelque chose qu'il n'a pas fait pendant la guerre, il fait du trafic. Du vrai trafic, je veux dire, avec des petits trafiquants pour des petits trucs. Il vend des tableaux, des bijoux, des petits machins. Serait-il devenu pauvre?
Chasser de naturel.
On ne sait pas. Serait-il devenu pauvre? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que les autorités espagnoles ont été très aimables. Ils m'ont fourni des documents qu'ils n'avaient jamais fournis à personne. À peu près 1000 pages de documents d'enquête de la police espagnole de cette époque, de la police franquiste. C'est important que ce soit la police franquiste, d'ailleurs, par rapport à Skolnikov. Donc Skolnikov est protégé, apparemment, par des hiérarques franquistes et des Allemands quand il arrive. Donc il est interrogé comme étranger qui ramène des biens, et donc normalement il y a une sorte de contrôle d'échange, on peut pas comme ça arriver avec de l'argent. Bon, on lui saisit pas ses comptes, on les contrôle. Et il se passe un truc assez étrange, il quitte une banque contrôlée par un juge pour aller dans une autre avec une valise. Et dans cette valise, les Espagnols s'interrogent pas du tout sur ce qu'il y a dans la valise. Vu la taille de la valise, on suppose que ce ne sont sûrement pas des billets, mais peut-être des titres et des bijoux. Et là, les autorités françaises à l'époque se disent: le fameux milliard des bijoux, il est là, peut-être.
Et il faut dire aussi, et vous le dites dans votre livre, qu'il y a les services secrets français de la France qui arrivent, du nouveau gouvernement, ont monté des opérations pour à la fois éliminer un certain nombre de collaborateurs et en même temps s'emparer de ces valeurs pour que la République puisse en profiter, ce qui était quand même assez moral comme décision.
Surtout, il faut se dire que le gouvernement français à l'époque est appauvri forcément par le pillage et que donc Pierre Mendès-France, qui est ministre des Finances, qui passe le flambeau à René Pleven, qui va devenir ministre des Finances, en substance, c'est ramener l'argent. Voilà. Comment faire pour ramener l'argent?
Et c'est là d'ailleurs surtout pour ceux qui sont allés chez Franco, en fait.
Mais en général déjà. Et donc c'est ce qu'on va appeler les séquestres. C'est-à-dire qu'on va procéder à la saisie judiciaire, donc qu'on appelle un séquestre. Il y a pour la seule ville de Paris 35 000 séquestres, ce qui n'est quand même pas rien. Actuellement, il y a 35 000 dossiers aux archives. C'est quelque chose.
Et c'est là où on arrive à des milliards pour le séquestre qui concerne Skolnikov.
Les cinq plus gros séquestres, c'est-à-dire cinq personnes seulement, ça représente à l'époque 12 milliards de francs. C'est quelque chose de totalement inimaginable en sens moderne. Et donc, ces gens-là, pour l'essentiel, sont réfugiés à l'étranger, ils se sont enfuis, certains en Italie, d'autres on sait pas où, d'autres en Espagne, comme Skolnikov. Et donc, ils sont pourchassés par les services. Donc, les deux enquêtes, comme je disais tout à l'heure, une judiciaire, les faire payer judiciairement et fiscalement, puis une autre, trouver l'argent.
Voilà. Alors, il y a une équipe qui part pour trouver l'argent et pour en savoir un peu plus sur Monsieur Skolnikov. Ça va très très mal se finir, en tout cas pour lui, apparemment, si il n'y a pas eu simulacre de mort. On va vous raconter dans un instant exactement les circonstances dans lesquelles on a découvert le cadavre qui devrait être celui de Skolnikov.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Alors là voilà, l'heure du crime, Pierre Abramovici, puisque nous sommes le 10 juin 1945 et on va découvrir à quelques kilomètres de Madrid un corps calciné, je crois, au bord d'une route. Alors expliquez-moi les tenants et les aboutissants, parce que on va très vite arriver quand même à une opération des services secrets.
Alors il faut que procéder par ordre, il faut d'abord où on se trouve. On est sur la route nationale numéro 1. C'est quasiment l'autoroute. Aujourd'hui, c'est l'autoroute. Donc, il est facile d'aller de Madrid à cet endroit, qui est un petit village, en très très peu de temps. Ça compte, cette histoire de temps compte. On trouve le cadavre calciné. Alors, c'est étrange parce que au village, il n'y a pas de médecin légiste, évidemment. L'institut médico-légal est à Madrid, soit une heure de route de là ou deux heures ou plus. Mais non, on va procéder à une autopsie, très étrangement, dans une cabane à lapins. J'ai regardé, j'y suis allé, il n'y a pas d'électricité, rien. Le médecin du coin est forcément légiste, c'est évident, c'est les experts. Donc le gars, évidemment, sait tout de suite tout de quoi il s'agit. Donc il sait que le mort, dont on ne sait rien... Eh ben si, c'est Skolnikov.
C'est Skolnikov.
Il le sait tout de suite. Et il le sait d'autant plus qu'on a fait un avis.
Certificat de décès.
Quasiment. On a fait un avis de recherche pour un Skolnikov qui a disparu la veille.
Ouais.
6 heures plus tard, on sait que c'est lui.
Voilà.
Alors, à quoi le voit-on? Bah, vous allez rire. Il a des chaussures typiques. C'est très important. C'est grâce à ses chaussures qu'on le reconnaît. Le cadavre est calciné, mais les chaussures, bah, c'est forcément Skolnikov qui d'autre. Précisons pourquoi le franquisme est important. À l'époque, la guerre civile est terminée depuis peu. Il y a en gros un mort tous les jours dans tout le pays. Il y a donc des cadavres dans tout le pays. Mais celui-là est Skolnikov.
Bon, mais alors, attendez, je sais que vous avez réponse à tout sur cette partie de l'histoire, évidemment. Qui a raconté qu'une équipe des services secrets français aurait attiré à Madrid dans un piège Skolnikov, lui aurait fait une piqûre pour le tranquilliser, l'aurait mis une piqûre pour l'endormir. Là, il serait endormi définitivement, quoi. On l'aurait mis dans le coffre, et puis les conducteurs, enfin les gens à bord de la voiture seraient aperçus qu'il trimballait un cadavre, et à ce moment-là, il l'aurait débarrassé, sorti du coffre, mis au bord de la route, versé un peu d'essence, et puis voilà, quoi.
Ben vous allez rire, la police espagnole. C'est la police
espagnole.
C'est
la version de la police espagnole.
Qui dit, voilà comment ça s'est passé. Et comment elle le sait? Eh bien, étrangement, elle a surveillé Skolnikov avant. Elle avait un informateur, apparemment, chez les ravisseurs pendant. Et elle a arrêté les ravisseurs présumés tout de suite.
D'accord.
Tout ça se passe dans un laps de temps de 6 heures.
Mais vous avez demandé aussi à l'actuel DGSE d'ouvrir un peu ses archives.
Oui, alors les gens de la DGSE ont été très aimables, il faut dire. Et je pense que je vais faire encadrer leurs réponses. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un courrier personnel du directeur de la DGSE. Ils m'ont très gentiment baladé en m'expliquant que les documents accessibles n'étaient malheureusement pas en leur possession et que s'ils étaient accessibles, ils étaient aux archives de la Défense qui précisément ne sont pas accessibles. C'est bien dommage.
Même pour une affaire remontant à 1900. Ça sent un peu l'affaire d'État, non?
Alors, c'est une affaire d'État sur un point. J'ai un témoin qui est là, c'est décédé, qui était un ancien colonel des services de renseignement, qui lui disait, l'argent qu'on a récupéré à cette occasion a servi à des opérations pendant la guerre d'Indochine après. On avait besoin de fonds secrets.
On aurait bien arrêté Skolnikov, il aurait parlé, on aurait récupéré une partie de sa fortune.
C'est une hypothèse, en effet. Je dis c'est une hypothèse parce que le problème du cadavre calciné, c'est que c'est un problème.
Mais voilà, c'est pour ça que je vous posais.
Je reviens sur le cadavre qui est calciné, découvert par le médecin, qui est un médecin légiste forcément génial, et qui effectivement est repéré par les Espagnols tout de suite et qui les arrêtait immédiatement. Bon. En vérité, en fait, on n'en sait rien du tout. C'est-à-dire que il a un frère, Skolnikov. Ce frère vient identifier notre homme. Je rappelle, on est à 2 heures de route de l'Institut médico-légal. Non. On l'amène avec une opération de police spéciale, c'est dans les documents. On le fait venir de Madrid. Il reconnaît le corps aux chaussures, donc. Et à partir de là, il dit, c'est mon frère. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez rire, on le met pas au cimetière. Non. On le laisse au village et on l'enterre au village.
D'accord.
Et un mois plus tard, très étonnamment, les médecins là-bas sont des médecins d'État. Le médecin est muté. Ça veut dire que un mois plus tard, plus personne ne sait à quoi ressemble le cadavre.
Témoin,
il y a plus rien.
Mais vous avez retrouvé l'endroit où
j'ai retrouvé l'endroit qui est un endroit absolument charmant. Tout à fait. Et la tombe est tout à fait à l'écart. Étrangement, c'est très bizarre. Et j'ai fait un truc un peu pas terrible, je reconnais. J'ai regardé l'intérieur de la tombe. Et là, Skolnikov est un personnage exceptionnel.
C'est un petit peu ouvert. Vous avez pas pris une pelle et une pioche.
Non, pas du tout. La tombe était déjà à moitié ouverte.
D'accord.
Et donc j'ai regardé. Et notre homme est exceptionnel puisqu'il a 3 têtes et 1 tibia. En d'autres termes, c'est une tombe, c'est une fosse commune, dans laquelle on a mis peut-être le cadavre. Alors, ce qui est vrai, c'est
il serait où, autrement, là?
On a retrouvé, j'ai retrouvé un compte en banque datant de 1958, à Buenos Aires, au nom de Skolnikov. Donc, peut-être n'est-il pas mort. Et à ce moment-là, on peut imaginer la chose suivante. Il a négocié avec les Français, contre l'argent, sa vie sauve, et peut-être quelques sous en plus. Et à ce moment-là, il disparaît dans la nature. L'argent récupéré par les Français sert au fonds secret. C'est une hypothèse.
Mais elle est magnifique.
Formidable.
Avant la pause, il nous reste en 2 petites minutes, je voudrais que maintenant, parce que dans quelques instants, on va avoir au bout du fil Maître Pierre Zegmar, qui est avocat au barreau de Marseille, qui est l'avocat de Suzanne Martinez. Voilà pourquoi je vous parlais tout à l'heure du Martinez. Et Suzanne Martinez se bat bec et ongles pour faire reconnaître par la justice ses droits de propriété sur l'hôtel Martinez qui avait été construit en 1927 par son père, donc à Cannes. Là, il va être très fréquenté ces jours-ci, l'hôtel Martinez. Comment expliquer que un des dommages collatéraux de l'histoire de Skolnikov que vous racontez débouche sur la spoliation, parce qu'il faut peut-être apporter dire les mots hein, comme oui, ils sont d'une femme qui est actuellement moins cohérémie, enfin elle est à 800 € par mois de retraite quoi, oui. Et elle est peut-être la vraie propriétaire du Martinez.
Il faut résumer ça en une phrase: sans Skolnikov, pas de Martinez. Martinez fait partie de ce qu'on appelle les solidaires, c'est-à-dire que quand vous
c'est
avez
un Italien, lui.
C'est un Italien. Quand vous avez des séquestres à la Libération, il y a des gens qui sont les complices, les amis, les associés, tout ce que vous voulez. On appelle ça des solidaires. Et donc ils sont condamnés à la Libération en solidarité avec le criminel, c'est-à-dire Skolnikov pour la circonstance. Donc Martinez est solidaire. Mais pourquoi est-il solidaire? Parce que pendant 3 mois, il a emprunté en 1943 19 millions de francs à Skolnikov en contrepartie d'actions de sa société immobilière du Martinez.
D'accord.
Ça ne fait pas de Skolnikov le propriétaire du Martinez. Ça fait un actionnaire important de la société. Mm-hmm. Sauf que, ça je l'ai prouvé dans le livre, je le révèle,
oui.
Skolnikov le rembourse à la fin de l'année 43. Donc au début 44, il n'y a plus de lien entre Skolnikov et Martinez.
Oui.
Mais à la Libération, Martinez, qui est italien, mm-hmm. paye pour toute l'action des Italiens pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mmh.
Martinez, c'est un hôtel de luxe où évidemment se sont vautrés les Allemands, les Italiens, tout ce que vous voulez.
Il y avait un étage réservé entièrement à la Wehrmacht.
C'est normal, ils sont séquestrés, oui. Enfin ils sont oui. réquisitionnés.
Il y a quelques
normal.
Photos de Monsieur Martinez qui sont parues à la une des journaux de la résistance après la guerre.
Mais en même temps, personne ne tient compte.
Où il trinque avec les officiers allemands.
Et oui. personne ne tient compte d'un fait assez bête, c'est que Martinez, pendant la guerre, marie sa fille à un résistant anglais.
Ouais.
Et qu'après, il s'enfuit en Italie pour finalement se réfugier en Angleterre. Vous dites, pour un type qui est un collabo, c'est étrange.
Ouais. En tant qu'Italien, il est difficile de l'accuser de collaboration.
En plus, il ne peut pas être jugé comme tel, donc l'argument légal est un peu bizarre.
Ouais.
Le séquestre se produit, donc le Martinez est séquestré.
Ouais.
Et à partir de là, vous avez 70 ans de réclamation de l'État français, mmh. avec vente de l'hôtel Martinez. Et le problème, c'est qu'il repose sur un faux, puisque Martinez, pour la circonstance, n'a pas vendu son hôtel réellement à Skolnikov, et que par-dessus le marché, pour ne rien arranger, il est blanchi de la collaboration après la guerre.
Oui.
Il
en devient 1949, complètement innocent. Il y a un jugement qui l'innocente
totalement.
Totalement, voilà. Et il avait été condamné par contumace. Hein,
précisons quand même que sa fille, donc qui a donc 90 ans, touche donc le minimum vieillesse et qu'on lui réclame 26 millions d'euros additionnés de 400 000 euros par an chaque année depuis 70 ans.
Alors, va-t-elle faire reconnaître ses droits? On compte sur maître Pierre Zogmar, son avocat, donc pour nous le dire dans quelques instants après cette dernière pause.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'occupation, c'est le titre du livre de Pierre Abramovici, mon invité, paru chez Nouveau Monde Édition, un livre absolument passionnant, doublement, d'abord parce que c'est un illustre inconnu, effectivement, mais en même temps, il a une vie, on peut dire, extrêmement remplie, et puis c'est une affaire sur laquelle pèse encore beaucoup, beaucoup de mystères, des zones d'ombre, et ça continue aujourd'hui, on vient d'en parler il y a un petit instant, avec la bataille autour de la propriété de l'hôtel Martinez. C'est pas rien. Alors, je résume avant de prendre maître Pierre Zegmar, qui est l'avocat de la fille de monsieur Martinez, le fondateur, celui qui a bâti cet hôtel en 1927. Cette femme réclame son dû, en fait, pour elle. Hein. Il faut dire que après la guerre, donc, monsieur Martinez, accusé de collaboration, ses biens sont séquestrés, dont l'hôtel Martinez, donc qui appartient du coup à l'État. Et puis en 49, il est blanchi de toute accusation de collaboration, mais on applique quand même la décision de justice. Donc l'hôtel est vendu après en 1981 par l'État aux États-Unis à un groupe américain. Ce groupe américain le vend aux Qataris, qui sont les actuels propriétaires. Sauf que, bonjour, maître Pierre Zegmar.
Bonjour, Jacques Pradel.
Alors, c'est un peu complexe. Je compte sur vous pour simplifier absolument le langage juridique pour ceux qui nous écoutent, quoi. Quel est l'enjeu, là, maintenant, de cette année?
Disons que l'enjeu de cette année, c'est une action en revendication de la propriété du palace, puisque Martinez a été condamné parce qu'il devait de l'argent à l'État. Mmh. Et maintenant, on sait il y avait un document de 63 qui indiquait clairement que les Allemands n'avaient pas d'action dans le Martinez de Cannes. Ouais. Et puis il y a une enquête de la brigade financière de Paris de 2012 qui révèle que pendant 27 ans, l'État qui gérait le palace, l'État n'a pas prélevé un seul centime pour payer la dette de Martinez.
Ce qu'il aurait dû faire.
C'est ce que l'État aurait dû faire.
C'est-à-dire que, excusez-moi, on demande à votre cliente Suzanne Martinez éventuellement quelques dizaines de millions d'euros.
Bien sûr, on lui demande toujours actuellement 23 millions d'euros, hein, ouais. Parce qu'on considère que l'État considère qu'il est toujours créancier. Ouais. Or, les pièces d'archives, l'enquête de la brigade financière de Paris, le document secret de l'État de 1963 révèle que naturellement les Allemands n'avaient pas d'action dans le Martinez de Cannes, ouais. Donc les Allemands ne pouvaient pas être propriétaires de ce palace. Ouais. C'est pour ça que grâce à ces documents, nous revendiquons la propriété du palace pour Madame Martinez, puisque Emmanuel Martinez était le principal actionnaire.
Mais qu'est-ce qu'ils disent les Qataris, les actuels propriétaires? Ils disent débrouillez-vous avec l'État français, réglez vos comptes. Nous, on a acheté un hôtel de bonne foi, quoi.
Alors justement, vous savez que ce sont toujours les mêmes sociétés qui achètent le palace. Donc, vous savez que pour attaquer en justice quelqu'un qui achète un bien, il faut que la personne soit de mauvaise foi lorsqu'il y a un certain temps qui s'est écoulé. Mmh. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que c'est toujours la même société. Or, la société à l'époque était contrôlée par le groupe Tétinger. Et la famille Tétinger, lorsqu'ils ont acheté le palace en 1981, avait indiqué que le dossier avait été hyper bien verrouillé et qu'ils connaissaient tous les éléments de ce dossier. Donc, cette affaire, ces éléments-là, qui étaient parfaitement connus par la famille Tétinger, ça a été après revendu à des Américains, ça a été revendu à des Qataris avec le dossier complet. Ouais. Donc, personne ne peut ignorer le vol qu'a commis l'État en 1945.
Un petit mot, Pierre Abramovici. En fait, le contenu de votre livre apporte de l'eau au moulin de la cause de Suzanne Martinez.
Bah, c'était pas le but original.
Non, mais
c'est un fait.
De fait,
le cas est absolument incroyable. Oui. Oui. Martinez est innocent et l'État a volé son hôtel.
Voilà. Et alors, maître Zegmar, il y a, on l'a dit, une espèce de feuilleton judiciaire autour de tout ça. Il y a des rendez-vous judiciaires quand même. Est-ce que cette affaire, est-ce que on mettra un point final à cette affaire? Est-ce que la justice répondra un jour clairement à votre demande?
Alors, vous savez qu'il faut qu'il y ait une justice indépendante, il faut qu'il y ait une justice courageuse, parce que en face de la pauvre héritière d'Emmanuel Martinez, vous avez des grands groupes financiers et vous avez le pouvoir politique.
Pauvre, vous avez raison, elle est à 800 euros par mois.
Tout à fait, elle est en face d'elle des mastodontes. Elle a, la puissance financière de grands groupes, très puissants. Elle a l'État. Et or, s'il y avait par exemple des pourparlers avec l'État, il faudrait s'adresser à Patricia Brandao, qui est une archiviste, qui elle a énormément de documents qui révéleraient à l'État l'étendue de ce vol.
Bon, alors est-ce qu'il y a un rendez-vous judiciaire? Est-ce qu'il y a un procès
Oui, alors il y a deux procès. Il y a un procès devant le TJ. La cour d'appel d'Aix m'a donné raison récemment pour un problème de compétence, de procédure, je rentre pas dans le détail. Mmh. Donc il y a un procès sur la propriété du palace qui est devant le TJ de Grasse, et vous avez un recours en révision parce que Martinez avait été condamné à payer des sommes extraordinaires, importantes. Ouais. Et il y a un recours en révision pour faire réviser ces condamnations qui est actuellement devant la cour de Lyon avec une audience le 21 mai prochain.
Alors,
on va demander un expert pour les comptes.
Le 21 mai prochain, là.
Oui, le 21 mai, parce qu'on va demander à la cour de Lyon de désigner un expert qui va examiner les comptes, et vous verrez qu'à la fin, je prends tous les paris, à la fin, vous verrez bien que c'est l'État qui est débiteur, c'est l'État qui doit de l'argent, et c'est Martinez, la pauvre Madame Martinez, la fille d'Emmanuel Martinez,
qui pourrait devenir la riche Madame Martinez, alors, donc, qui espère devenir la riche Madame Martinez. Vous pensez que ça peut se régler à échéance de combien de mois ou d'années?
Mais tout dépend.
Parce qu'elle est très âgée, Madame Martinez.
Oui, alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on essaye d'accélérer les procédures, je vais pas être dans le détail, on va essayer d'accélérer les procédures pour que la justice, si vous voulez, ait en main tous les éléments comptables. Hein, et quand on a tous les éléments comptables, quand on fait les comptes, on s'apercevra très très facilement que l'État doit beaucoup 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 d'argent à la fille d'Emmanuel Martinez.
Et quand elle va, si elle voulait aller boire un verre, si j'ose dire, au Martinez, elle serait la bienvenue ou on veut pas la voir?
Je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas encore la position réelle des Qataris qui sont devenus depuis très peu les propriétaires du palace. Je ne sais pas leur position encore. Peut-être qu'ils n'ont pas encore tous les éléments de ce dossier qui est complexe.
Je vous remercie beaucoup, Mme. maître Pierre Zegmar, donc avocat baron de Marseille, avocat de Suzanne Martinez. C'est un feuilleton incroyable qui prolonge votre livre, en fait.
Absolument, et je voudrais même souligner un point qui est important, c'est qu'il y a eu vraiment deux poids, deux mesures dans cette affaire, surtout. Puisque, par exemple, l'un des complices importants de Skolnikov à la libération, qui n'est donc pas Martinez, c'est très peu de choses, presque rien, même y compris dans ce qu'on lui reproche, c'est Marcel Boussac, qui est l'un des hommes les plus riches de France. Et Boussac a eu, dans son instruction à charge, le même juge d'instruction que Skolnikov. Et l'instruction à charge contre Skolnikov utilise deux témoins considérés comme parfaitement crédibles par le juge, alors que pour considérer que Boussac, lui, doit être libéré et blanchi, on utilise les mêmes témoins en disant qu'ils ne sont pas crédibles.
C'est extraordinaire, quand même. Donc voilà, donc déjà la justice et le fisc, c'est pas la même chose.
Non, pas du tout. D'ailleurs, l'enquête dont faisait état maître Zegmar, c'est une enquête de la police parisienne, donc de la brigade financière. Quand ils se sont pointés à la trésorerie du 16e arrondissement, puisque c'est elle qui centralise depuis la Seconde Guerre mondiale cette affaire, ils ont demandé bêtement au trésorier, qui, vous imaginez, ça fait 70 ans, c'est une affaire connue dans la maison. On lui dit, alors, sur quoi vous appuyez-vous? Je sais pas. Mais sur quels éléments financiers? Je sais pas. Mais comment faites-vous pour réclamer 23 millions? Je sais pas, on a fait une estimation.
Bon, mais écoutez, faut envoyer votre livre d'urgence à la fois à Christiane Taubira et à Bercy, quoi, quand même, peut-être que...
Je crois qu'ils l'ont déjà.
Ils l'ont déjà, vous croyez, ouais. Bon, je vous remercie beaucoup, Pierre Abramovici. Merci infiniment. Et bravo pour ce livre qui met les projecteurs sur une histoire vraiment à la fois méconnue et passionnante. Skolnikov, le plus grand trafiquant de l'occupation, c'est chez Nouveau Monde Édition. Bonne lecture, donc. L'émission est maintenant terminée. Vous retrouverez Flavie Flamand tout à l'heure, après le flash de 15h.